Ma radio.
Bonjour et bienvenue sur Ma radio. Nous sommes le jeudi 20 mars 2014 et il est 18h. À la veille du printemps, nous sommes de retour pour encore plus d'informations, de culture, du beau temps et du bonheur. Avec vos chroniqueurs préférés qui ne loupent jamais leur rendez-vous musical, people ou encore technologique. Du sérieux, du décalé, du surprenant, de l'émotion, de l'innovant. Et c'est pour vous sur Ma radio. Et tout de suite, l'invité du jour.
L'invité du jour.
Bonsoir Damien Péclet, cadre technique de France 3 en Franche-Comté du coup.
C'est ça.
Du coup, je voulais savoir quel a été votre parcours professionnel.
Alors mon parcours professionnel, j'ai commencé avec un bac électronique que j'ai fait à Morteau. Ensuite, j'ai intégré le BTS audiovisuel de Montbéliard.
Ah bah, comme quoi.
Voilà, comme quoi, ça mène à tout. Où je suis venu ici en tant qu'étudiant pour la technique d'ingénierie. Voilà, anciennement exploitation vidéo. J'ai ensuite continué mes études dans une école d'ingénieurs du son à Paris. Et ensuite, je suis rentré sur le marché du travail après un séjour de 10 mois à l'armée au CIRPA régional de Besançon.
D'accord.
Voilà, qui était le service régional audiovisuel des armées. Voilà.
Et du coup, la télévision, est-ce qu'elle a été pour toi une vocation depuis quelques années ou c'est venu après avec la suite par le temps?
Alors en fait, c'était un choix de carrière qui finalement s'imposait. Ayant fait des études en vidéo plus des études en son, il semblait tout à fait naturel qu'à un moment donné, je me rapproche de la télévision pour mixer mes deux compétences. Voilà.
Quelles sont donc les qualités requises pour exercer cette fonction de cadre technique?
Quelles qualités? Je pense qu'il faut principalement faire confiance aux techniciens avec lesquels on travaille, puisque je me vois un peu comme une sorte de chef d'orchestre qui se repose énormément sur les compétences d'une dizaine de corps de métiers techniques pour fabriquer et réaliser les émissions qu'on nous demande.
D'accord. Voilà. Du coup, ça consiste en quoi précisément
Précisément, c'est répondre à des cahiers des charges d'émissions que nous demande la rédaction en fonction de thèmes ou d'événements, ou de thèmes comme en ce moment les élections, tout simplement,
qui vont
nous occuper ce week-end et le week-end prochain, et d'essayer de répondre en fait, avec les effectifs et les moyens techniques que nous avons, auquel cas, soit nous faisons appel à d'autres stations pour nous aider, ou soit nous louons du matériel, ainsi de suite, mais voilà, tout ça avec un cahier des charges strict.
Du coup, le travail d'équipe est un facteur essentiel, si j'ai bien compris.
Ah, c'est même l'essentiel même du métier. Ouais. Voilà.
Est-ce que le monde de la télévision est-il toujours en évolution?
Oui, technologiquement.
Technologiquement,
oui. Ça n'arrête pas. Et c'est bien comme ça. Et je pense que.
Des grands enjeux techniques ces prochaines années ou...
Les grands enjeux techniques, oui, pour nous, c'est pas mal de choses. C'est s'adapter le plus possible à l'évolution avec l'arrivée d'Internet et la contribution à fabriquer de plus en plus de choses aussi pour Internet. Mm-hmm. De mettre les choses de plus en plus en disponibilité aussi pour les téléspectateurs et les internautes. Voilà. Et de suivre aussi l'évolution technologique par rapport à la fabrication, et d'aller plus vite, de plus de points directs, d'être au plus près des gens aussi sur le terrain. Et voilà. Donc c'est beaucoup de choses.
D'accord.
Avec l'arrivée de la téléphonie, avec l'arrivée de la 3G, avec l'arrivée des transmissions SAT que nous maîtrisons depuis quelques années maintenant. Mais voilà, beaucoup de choses comme ça.
Et par rapport à Internet aussi, quel regard tu portes sur l'émergence des nouveaux supports de diffusion sur le net?
C'est très bien. C'est une manière en fait... très particulière de toucher en fait les gens, c'est une autre manière, c'est une télévision qui s'apprend et qui s'écrit, voilà, c'est-à-dire qui est en train de s'écrire. Et on commence à discerner quelques codes, mais grâce en l'occurrence à des webmasters qui travaillent avec nous maintenant et qui maîtrisent assez bien l'environnement et une écriture aussi journalistique qui est adaptée au support. Voilà.
D'accord. Est-ce que maintenant tu as déjà d'autres projets professionnels?
D'autres projets professionnels? Non, je suis très bien, voilà, Besançon, l'équipe me plaît. Ça fait 2 ans et demi que je suis sur ce poste.
D'accord.
Et voilà, j'ai encore un peu de travail pour envisager autre chose.
on te souhaite plein de réussite et une bonne continuation.
C'est gentil, merci et bonne réussite à vous bientôt.
Merci beaucoup, au revoir Damien.
Au revoir.
Yeah. Yo, this is a stick up.
Stick up.
Stick up.
We're in your town.
Town.
Flying around. Trying to save me from the crowd. But I keep being in the clouds. I'm sitting on the throne. Damn right I wear the crown. It's the way that I was raised. Brought up to throw
selfies, but I ain't talking pictures. The bartender is cute, boy, you better. I am home, it's my time, give me room, let me shine. I'm so high off alive, all my dreams came alive. My reflection is me, and I like what I see. Give me room, let me shine, let me shine.
There's nothing in my cup. Wanna drink like my last is my first.
Grab a glass, place it first.
Slow the beat down and flip it in reverse.
Flip it in reverse. Serve for me.
No time to converse. Keep my mind on my work. I'ma grind till it hurts. Oh. Party life, and it's a party song, and I'm already gone. Yeah, I'm smashed like broken glass. So if you drinking with us, then you fuck
up. Now put your hands up, homie.
It's a stick up.
Wave them from side to side. Shots like paparazzi, but I ain't talking pictures.
If the bartender is cute, boy, you better tip her.
I am home, it's my time, give me room, let me shine. I'm so high off alive, all my dreams came alive. My reflection is me, and I like what I see. Give me room, let me shine, let me shine.
Your life, I fuck about your style. This shit is up to me, and I'm ahead of you by
let
now.
Me shine.
Let me shine.
Let me shine.
I give a fuck about your life. I fuck about your style. This shit is up to me, and I'm ahead of you by now.
You gotta let it shine, little mama, gotta shine, 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 shine.
C'était Ain't No Love, oulala, quelques problèmes en anglais, de Shine. Et maintenant, la chronique cinéma avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Ma radio.
L'émission ciné. Alors nous avons retrouvé Pierre, bonsoir.
Bonsoir Anaïs, ça va?
Non, attends.
Comme de toute façon tous les chroniqueurs vont te demander comment toi tu vas, moi je vais plutôt te demander si tu as profité du printemps du cinéma pour aller voir plein de films.
Alors là, pas vraiment en fait, mais c'est pour ça que tu l'as Pierre, non? Alors ouais. De quoi vas-tu nous parler ce soir?
Alors justement ce soir, un film sur le passé, l'autre sur le futur, un film qui ne vaut à mon sens pas vraiment le coup de se déplacer en salle, d'autant que c'est la crise tout ça, hein.
Ouais.
Et l'autre qui peut faire office en temps de crise justement d'antidépresseur intelligent et poétique, pour peu qu'on fasse preuve d'un peu de tolérance.
Eh bien allons-y.
Bon, alors
nous avons quelques problèmes techniques, du coup nous allons enchaîner sur...
Ouais, donc du coup, je parlais d'un film qui, sur le papier, étale les champs. George Clooney, Matt Damon, Kate Blanchett, Bill Murray, John Goodman et Jean Dujardin qui partent à la poursuite des nazis pour jouer les Robin des Bois protecteurs du patrimoine artistique. Franchement, ça donne envie, hein.
Plutôt, ouais.
Ouais. On parle bien sûr de Anaïs.
Monuments Men.
Monuments Men, oui, de et avec George Wattles Clooney. Le film est adapté du film éponyme de Robert M. Hetzel, sorti en 2009, qui relate la véritable mission d'un petit groupe d'hommes qui, dans les derniers mois de la guerre, se mettent à la poursuite des œuvres dérobées par les soldats sur leur chemin du retour en Allemagne. Directeur, conservateur de musée, artiste, architecte, historien d'art, bref, tout sauf des soldats en formation, qui décide de se jeter au cœur du conflit pour tenter de protéger une partie des pièces les plus précieuses de l'humanité en les restituant à leurs propriétaires légitimes.
D'accord.
Voilà. Et malheureusement, on n'a pas l'extrait, et malheureusement aussi, entre incohérences narratives, inexactitudes, voire modifications historiques, récits trop elliptiques et décousus des faits, hésitant constamment entre chasse au trésor façon Indiana Jones, humour plus ou moins décalé et sérieux dramatique, Monuments Men n'a guère d'autre mérite que celui de mettre en lumière un épisode assez méconnu, ou du moins secondaire, de la Seconde Guerre mondiale, et de rappeler les bénéfices que les générations actuelles doivent encore à ce groupe d'hommes qui a récupéré bon nombre d'œuvres d'art.
Certes, oui.
C'est dur de meubler. Surprenante réalisation d'un Clooney qui nous avait habitués à mieux avec Good Night and Good Luck, Les Marches du Pouvoir par exemple, Monuments Men est un peu, pour paraphraser le magazine Première, à l'image du George et de son café, stylé et un peu désinvolte.
Ah bah George Clooney, hein. Il faut aller voir.
Et ouais, mais même...
oui. ça a l'air bien pourtant, non ?
Ouais, non, mais qu'on soit bien d'accord, c'est loin d'être un navet absolu, hein, et le film offre même par moments de belles séquences, mais l'ensemble est trop inégal pour qu'on en ressorte satisfait, et le gros travail de compensation musicale d'Alexandre Desplat, n'y change malheureusement rien.
Non.
Voilà. Et finalement, si je devais utiliser une expression sportive, je dirais volontiers qu'ils ont, tu sais, un peu mangé la feuille de match. Et bon, tant pis Anaïs, tu n'auras pas droit à un extrait d'Indy là, je sais que t'en mourrais d'envie pourtant.
Oh, je suis déçue là.
Mais oui, tu disais une chanson qui correspondait assez bien au film, c'est qu'au bout d'un moment ça tourne dans le vide en fait. Hein.
D'accord.
Et voilà. Et, mais du coup, la prochaine fois, promis, tu l'auras ton extrait. Alors, tu me diras, et tu aurais raison de me le demander, si le film se veut un récit d'une histoire vraie, que les données historiques ne sont pas respectées, que cette tranche d'histoire méconnue, mais sur le fond, si cette tranche d'histoire méconnue est sur le fond passionnante, mais moyennement palpitante sur la forme, que le scénario est décousu, trop elliptique et que le tout tourne un peu dans le vide, que reste-t-il alors ? Eh bien, peut-être le plaisir, toujours constant, de retrouver un John Goodman assidûment sympathique et amusant, un Bill Murray charismatique et étonnamment émouvant, et puis quand même les poids lourds que sont les copains de café Clooney et Damon, qui ont été par le passé et seront probablement dans le futur mieux mis en valeur.
Donc un film plutôt à recommander ou plutôt à ne pas recommander ?
Non, à moins de n'avoir vraiment que du temps libre et les finances appropriées, pas vraiment. Et voilà, comme il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, on va passer au film suivant qui vaut un peu plus le coup. Ouais.
Mais alors, quel est ce film ?
Eh bien, c'est un film qui est sorti en France hier, mercredi. Ça s'appelle Her, H-E-R, ou bien Elle, comme on dit chez nos amis québécois. C'est l'histoire de Théodore Twombly, un écrivain public pour un site internet du Los Angeles du futur. Un futur proche, épuré et apaisé. Un futur pas si lointain dans lequel la technologie a envahi notre quotidien jusque dans ses plus petits détails et qui a rendu inéluctable la dépendance au smartphone, aux emails publicitaires ainsi qu'à l'oreillette Bluetooth. Et donc, bien qu'il écrive les lettres d'amour des autres, Théodore est lui-même en pleine procédure de divorce et vit au ralenti, hanté par les images d'un bonheur évanoui et le souvenir de son amour d'enfance perdu. C'est donc presque tout naturellement qu'il se noie quotidiennement dans les nouvelles technologies pour oublier sa peine et s'éloigner le plus possible de ce monde réel, jusqu'au jour où il fait l'acquisition d'un nouvel operating system. Operating system, dernier cri, qui communique avec lui via une voix féminine à l'intelligence évolutive. Et là, Anaïs, je crois que c'est le moment de nous faire une démonstration de tes compétences anglicistes bien connues. Qu'est-ce que ça veut dire, operating system ?
Système d'exploitation.
Ouais. Bon. Ouais, Windows, tout ça, voilà. Et donc oui, bravo, on me dit dans l'oreillette que c'est une bonne réponse. Et donc, en lançant le système, Théodore fait la connaissance de Samantha, une voix féminine, douce et suave, intelligente, intuitive et étonnamment drôle, dont il va progressivement tomber amoureux. Voilà, normalement, hein, on se met un peu dans l'ambiance, il y a un peu de musique, voilà. Et cette espèce de rencontre insolite qui va se produire, Samantha va effectivement vouloir à tout prix apprendre le monde humain, de la perception du temps et de l'espace à la complexité des sentiments. Elle soulève des interrogations métaphysiques concernant notre humanité, mais également des questions éthiques sur l'intelligence artificielle. N'est-on finalement pas humain si l'on éprouve des sentiments ? Est-on dépourvu d'humanité sans existence charnelle ? Une relation amoureuse privée de contact physique est-elle possible ? autant de problématiques philosophico-dualistes interrogeant le couple matière et esprit qui peuvent être déclenchées par le visionnage de ce qui est peut-être le premier film romantique dans lequel on ne voit qu'une moitié de couple.
Donc un film assez moderne sur les nouvelles technologies qui peuvent poser des questions,
ouais,
c'est vrai.
À la fois ancien avec un angle moderne, je dirais. Ouais. En fait, comme tous les hommes et toutes les femmes, Samantha rit, plaisante, elle se vexe, elle pleure, elle fait des crises de jalousie et se pose même des questions existentielles. Seulement, si elle est une confidente précieuse, une oreille attentive et une amie compréhensive, cette anthropomorphisation technologique n'en est pas moins intrusive. Elle sait instantanément tout de Théodore et de sa personnalité en jetant un coup d'œil à son disque dur ou en scannant ses emails. Elle rappelle ainsi les mises en garde contre l'omniprésence de la technologie d'un George Orwell ou d'un Isaac Asimov par exemple, même si bon... ce n'est finalement pas le propos principal de ce film, et que l'invasion de la vie privée n'est que très vite dénoncée. Non, ce quatrième long métrage de Spike Jonze ne constitue pas tant une dystopie anti-technologique qu'une réelle mise en lumière de la solitude d'un homme dans un monde d'hypercommunication, soulignant ainsi le paradoxe déjà naissant aujourd'hui de l'isolement de l'individu dans une société où la technologie est censée faciliter les relations sociales, le tout à travers une romance virtuelle traitée à la façon de Sofia Coppola dans Lost in Translation par exemple.
D'accord.
Voilà. Et donc après dans la peau de John Malkovich en 1999, adaptation en 2002 et Max et les Maxi-Monstres en 2009, l'univers de Spike Jonze s'est peuplé de doubles fantasmés et de créatures imaginaires grâce auxquelles des êtres esselés s'échappent du monde réel. Le but de Spike Jonze n'est donc pas vraiment de deviner à quoi ressemblera notre avenir, mais plutôt d'interroger et d'approfondir les questions que pose dès aujourd'hui notre rapport à la technologie. En pause quand même.
Bah oui, c'est en pause.
Oui.
C'est en plein dans notre contexte.
Merci Anaïs. En creux de notre rapport à la machine, ce sont donc surtout les rapports humains qui font la matrice de ce film, qui se situe quelque part entre 2001, l'Odyssée de l'espèce, Blade Runner, Wall-E, AI, intelligence artificielle, voire même peut-être Frankenstein. De ce film, on se souviendra qu'en plus de la réalisation, Spike Jonze a signé le scénario pour lequel il a remporté un Oscar le 2 mars dernier. Mais on retiendra aussi la performance remarquable de Joaquin Phoenix. Tu te rappelles de Joaquin Phoenix ?
Oui, la dernière fois. Mais...
c'était le méchant dans Gladiator,
ouais.
Méchant commode.
Oui.
Ouais, et là, il joue presque seul pendant la majeure partie du film, puisque la voix de sa compagne informatique, incarnée par Scarlett Johansson, a été rajoutée en post-production. Performance remarquable également pour la dite Scarlett Johansson, qui, sans jamais apparaître à l'écran, a